Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Le portrait d'aujourd'hui se rapporte à un homme et à une ville. Et oui, il est impossible d'évoquer le destin du baron Haussmann sans évoquer Paris. Pour reprendre les mots de notre invité, Nicolas Chaudin, Haussmann, c'est Paris. Préfet de la Seine sous le Second Empire, le baron Haussmann métamorphosa la ville. 2009 marque l'année du bicentenaire de sa naissance. Il est d'ailleurs étonnant de constater l'absence de commémoration, en particulier de la part de la ville de Paris, qui pourtant lui doit tant. En fait, le personnage demeure sujet à controverse. Il est vrai que le percement de Paris soulève la question du saccage haussmannien, mais faut-il pour autant passer à la trappe la réussite de l'urbanisme haussmannien ? Saisissons donc avec Nicolas Chaudin l'occasion de ce bicentenaire pour revenir sur l'œuvre haussmannienne et découvrir l'homme attaché à cette vaste entreprise. En fait, que sait-on d'ailleurs de ce grand homme ? Quelle fut sa responsabilité réelle dans la transformation de Paris ? Fut-il le visionnaire que l'on croit, ou plutôt le parfait exécutant d'une marche engagée ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nicolas Chaudin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes éditeur et vous avez créé votre propre maison d'édition d'art. Vous avez d'ailleurs publié en 2005, je crois, un magnifique ouvrage sur le palais de l'Institut. Je le rappelle au micro de Canal Académie quand même. Vous êtes également donc auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Actes Sud. Et le dernier en date, Haussmann Georges Eugène, préfet baron de la Seine, n'est autre qu'une biographie du préfet de la Seine. Alors cette biographie se présente sous la forme d'un essai, au style raffiné et très documenté. Et puisque vous utilisez pour la première fois le fond Siméon, et très intéressant pour une meilleure compréhension du personnage, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et ce qu'est ce fond Siméon ?
En réalité, le fond Siméon est ce qui reste d'une commission des embellissements de Paris que Napoléon III avait réunie avant même d'appeler Haussmann aux affaires. Cette commission, Haussmann en parle dans ses mémoires en disant qu'elle a barbouillé un plan et vaguement esquissé un programme d'ouverture de voies nouvelles. Au-delà de ça, on n'a jamais entendu plus parler de cette commission, qui s'est séparée en décembre 1953. Haussmann arrive en juin 1953 aux affaires. Et en 1996, donc il y a assez longtemps, le directeur de la bibliothèque administrative de la ville de Paris, un magnifique endroit sous les combles de l'hôtel de ville, une bibliothèque superbe, hein, tout en bois, enfin que je vous suggère d'aller voir. Le directeur de cette bibliothèque, donc, qui s'appelle Pierre Cassel, a acheté pour le compte de la ville une liasse de papiers qui ne sont autres que les comptes rendus et les plans des travaux menés par la commission Siméon. Et là, soudain, on se rend compte que la commission Siméon a accompli un travail formidable. Travail accompli sur ordre de l'empereur, avec des injonctions de cet empereur extrêmement précises, notamment sur les percements, sur les jardins, sur les ponts, etc., etc. Donc on se rend compte, en fait, grâce au fond de la commission Siméon, que, effectivement, mon précédent essai, Haussmann au crible, avait utilisé pour la première fois et révélé un peu au grand public, on se rend compte qu'Haussmann n'est pas une espèce de démiurge accidentel qui, du jour au lendemain, métamorphose la ville parce qu'il est plus éclairé que ses contemporains. Non. En fait, il arrive à un moment précis où aboutissent toutes les idées, tous les plans, toutes les tentatives qu'on a mises au point avec plus ou moins d'insistance. Il arrive à ce moment également où les possibilités que laisse le droit administratif sont beaucoup plus larges qu'autrefois, notamment l'expulsion pour utilité publique. Et il arrive aussi au moment où un pouvoir, le Second Empire, se fait fort d'instrumentaliser le capitalisme industriel et donc de trouver l'argent nécessaire à ses travaux.
Alors on va revenir sur la carrière du baron Haussmann, sur son ascension déjà. Donc il est né sous le Premier Empire en 1809, comme je le disais en introduction, et il devient préfet de la Seine en 1853.
Exactement, en juin 53.
Entre les deux, donc, il s'est mis au service de la monarchie de Juillet. C'est là où il commence sa carrière préfectorale.
Tout à fait.
Et il n'hésite pas pourtant à se mettre après, donc, à passer au service de l'Empire.
En cela, il ne se distingue pas tellement de ses contemporains. Haussmann, d'abord, Disons-le tout net, d'emblée, Haussmann n'est pas un urbaniste, Haussmann n'est pas un bâtisseur. Au départ, Haussmann, c'est un préfet. Il est muni d'une licence en droit. Et à la suite de la révolution de 1830, qui porte au pouvoir la famille d'Orléans, il commence sa carrière administrative. C'est important parce que lui était au collège Henri IV, et au collège Henri IV, l'actuel lycée Condorcet. Et au collège Henri IV, il est le condisciple de Ferdinand Philippe, de Ferdinand, quoi, le duc d'Orléans, l'héritier de Louis-Philippe. Le magnifique héritier de Louis-Philippe qui meurt accidentellement en 1842, et qui, en mourant, ne laisse aucun espoir de pérennité à la dynastie. Bien que ses frères, d'ailleurs, fussent des gens très brillants, dont le duc d'Aumale. Et cela dit, Haussmann, en 1830, va, très heureusement pour lui, apercevoir Ferdinand sur les barricades, non pas sur les barricades, mais lors de la proclamation de la monarchie de Juillet, sur les marches du Palais Royal. Et en fait, le duc Ferdinand va suivre ses premiers pas de jeune fonctionnaire. Il sera donc, comme tout le monde, secrétaire de préfecture, puis sous-préfet. Et en fait, on se rend compte pendant ces années assez sombres, en fait, assez banales, même très balzaciennes, on se rend compte en fait qu'il bénéficie du soutien constant, distant mais constant, de Ferdinand, qui lui permet par exemple de passer outre les réprimandes d'un ministre ou la mauvaise volonté d'un préfet à assurer son avancement. Et quand Ferdinand meurt en 1842, Haussmann se sent un peu orphelin de son protecteur. D'ailleurs, s'ensuit une série d'affectations pas très valorisantes qui s'éternisent. Et en fait, il accueille la révolution de 1848 avec circonspection, puisque ce n'était pas un attachement direct à la famille d'Orléans, mais un attachement au duc d'Orléans, dont il espérait un jour qu'il accéderait au trône et précipiterait son avancement. Et donc, quand Louis-Philippe choix de son trône en février 1848, Haussmann se montre extrêmement prudent, circonspect, et franchement hostile aux menées révolutionnaires, notamment lors des journées de juin.
Oui, parce que ça, c'est un point important d'ailleurs qui revient tout au long de la carrière d'Haussmann, c'est que c'est quelqu'un qui est un partisan de l'ordre.
Un partisan forcené de l'ordre.
Et dès ce moment-là.
D'ailleurs, en fait, en cela, il est très bourgeois. Vraiment, Haussmann est un être assez commun au départ. Hein. Comme je vous dis, c'est un fonctionnaire à l'avancement poussif. Pas particulièrement poussif, mais pas brillant non plus. Et c'est aussi un partisan de l'ordre, comme nombre de bourgeois, mal assurés de leur domination de la société. Elle est encore récente, la révolution de 89 les a portés au pouvoir. Et le retour des Bourbons les a un tout petit peu grattés aux aisselles. Et donc, en 1840, 45, 48, 50, un bourgeois, ce qu'il veut, c'est l'ordre. L'ordre est le garant de la bonne marche des affaires. L'ordre est le garant de l'installation de l'ordre bourgeois tel qu'il est conçu, enfin en tous les cas du monde bourgeois tel qu'il le conçoivent, c'est-à-dire un monde attelé au travail, au respect d'un certain nombre de conventions sociales et au respect, dans une moindre mesure, de la religion, puisque dans la bourgeoisie, on compte beaucoup de libéraux qui ne sont pas particulièrement cléricaux. Haussmann, qui est protestant, qui est fonctionnaire, qui est un bourgeois issu de l'Empire, enfin, ou en tout cas de la toute fin de l'Ancien Régime, est un homme qui adhère parfaitement à ses visées, à ses vues-là. Sa société doit être besogneuse, calme et tout à donner au respect de la hiérarchie sociale.
Donc nous sommes en février 1848. Louis-Philippe, donc, comme vous venez de le rappeler, quitte son trône. Petit à petit, c'est l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. Haussmann continue enfin, son ascension et un poste va être particulièrement important, après, c'est sa nomination à Bordeaux.
D'abord parce que Haussmann a beaucoup d'attaches à Bordeaux. Haussmann a épousé une Bordelaise, une protestante bordelaise. Il a été sous-préfet de Blaye, c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il s'est marié, qu'il a établi là-bas pas mal de relations avec la bourgeoisie locale. Avec la bourgeoisie orléaniste, il a un petit peu de mal parce que cette bourgeoisie des Chartrons est très, très orléaniste, donc ne regarde pas forcément tout de suite Louis-Napoléon Bonaparte comme un bon cheval. Mais Haussmann a acquis aussi des biens là-bas. Le jour même du coup d'État, quand il est nommé par Persigny, Morny et Napoléon III, donc préfet de la Gironde, c'est pour lui une espèce de consécration. D'ailleurs, il le dit lui-même assez faussement, mais enfin... Bon, allez, on va lui accorder crédit ce coup-ci. Dans ses mémoires, il dit que c'est pour lui une espèce d'apothéose et qu'il n'entend plus bouger et qu'il entend se maintenir le plus longtemps possible dans la Gironde où il est comme une espèce de coq en pâte. Cette affectation est encore importante parce qu'il va s'y produire quelque chose de très important pour la carrière d'Haussmann. Haussmann a été remarqué par le futur Napoléon III entre Tonnerre et Auxerre, c'est-à-dire dans le département de l'Yonne, dans le courant de l'année 1851. Il y est préfet, oui, c'est son premier poste préfectoral. Il est remarqué au cours d'une conversation dans un train, mais enfin bon. En revanche, il va avoir l'occasion de marquer beaucoup plus la mémoire du futur empereur en 1852, lorsque celui-ci effectue un voyage triomphal à travers toute la France. Il n'est encore que prince-président, mais déjà sur la route, on crie « Vive l'empereur », etc., etc. Et là où les cris bonapartistes seront les plus forts, ce sera à Bordeaux, où Haussmann a préparé un accueil absolument extraordinaire, triomphal, à son nouveau champion. Aidé en cela par tous les gens qui vont collaborer plus tard à la transformation de Paris, à commencer par Alphand, qui ponctue le trajet impérial d'Arc de Triomphe, végétaux, fournit à tous les Bordelais des lampions, des cotillons, des bannières, enfin, etc., etc. Bordeaux en délire accueille le prince-président auteur du coup d'État et on dit que c'est ce voyage qui, d'une certaine manière, va décider de la transformation de la République agonisante en un empire restauré. Et c'est effectivement là que Louis-Napoléon Bonaparte va prononcer ce discours, au milieu duquel se trouve une phrase fondatrice « L'Empire, c'est la paix ».
Mais là où Bordeaux est également très important dans la carrière d'Haussmann, c'est dans la future carrière d'Haussmann, c'est à cause de l'influence de Tourny.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler. En fait, Bordeaux est une ville qui a subi de très grandes transformations au XVIIIe siècle. Et en fait, je reprends mes propres termes d'ailleurs du livre, mais enfin, tant pis. En fait, si on veut se donner une idée de ce qu'aurait été Paris s'il avait été transformé au siècle des Lumières, il n'y a qu'à regarder Bordeaux. L'intendant Tourny, au milieu du XVIIIe siècle, a mis en œuvre tout un tas de méthodes d'urbanisme qui seront reprises par tous les théoriciens du XIXe siècle, à commencer par l'expulsion pour cause d'utilité publique, par la préemption des terrains, et donc par la percée de voies nouvelles, rectilignes ou en tous les cas biaisées. Et effectivement, l'intendant Tourny et puis son successeur Dupré de Saint-Maur, comme le duc de Richelieu d'ailleurs, qui succédera à Dupré de Saint-Maur, vont pendant trois générations d'intendants donner à Bordeaux son visage actuel, qui lui vaut d'être inscrit au patrimoine mondial, parce que c'est une ville absolument sublime et dont on ne saurait conseiller la visite à ceux qui nous écoutent. Le Grand Théâtre, construit par Victor Louis, les allées de Tourny. Les quais des Chartrons, le quai de la Bourse, qui n'en finissent pas, qui créent une espèce de front de fleuve absolument extraordinaire. La place de la Bourse, dessinée par Gabriel, Jacques-Ange IV Gabriel. Tout ça qui vous dit d'ailleurs que Bordeaux a été construite par des architectes parisiens, parce que Bordeaux s'est faite contre les Bordelais eux-mêmes, et que le seul architecte bordelais qui a essayé de se mêler à l'affaire, la Clotte, a construit de très belles choses, mais n'a pas brillé à côté de Louis et de Gabriel qui ont écrasé de leur génie cette place. Haussmann a travaillé là. Haussmann voit ça, voit une ville qui fonctionne, une ville aérée, une ville salubre, une ville qui s'est faite contre la vie même de ceux qui y vivaient. Tout ça sera engrangé dans sa tête lorsque Napoléon l'appellera pour une tâche à laquelle il n'est absolument pas préparé et dont il ne pressent même pas l'ampleur.
Nicolas Chaudin, je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission.
L'architecte Paul Andreu, membre de l'Académie des Beaux-Arts, revient sur la construction de l'Opéra de Pékin, inaugurée en 2007. De l'idée au dessin, du dessin à la mise en œuvre, Paul Andreu, témoignage sur une architecture en résonance. Une émission Carrefour des Arts à télécharger librement sur Canal Académie.
Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Chaudin, auteur d'une biographie du baron Haussmann. Nous venons d'assister à l'ascension du baron Haussmann. Entrons maintenant dans le vif du sujet, ai-je envie de dire, et nous allons plonger dans les travaux parisiens. Alors, Haussmann est nommé donc par Napoléon III en 1853 à la préfecture de la Seine de Paris. Le premier réseau, la première phase de travaux est la grande percée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Nicolas Chaudin ?
Alors en fait, quand Haussmann arrive en juin 1853 à Paris, les travaux ont déjà commencé. Ce qu'on oublie complètement.
Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, on parlait
de la commission Siméon. Alors voilà. Déjà, la commission Siméon est en phase d'être réunie. Elle a déjà été mandée par Napoléon III. Mais la commission Siméon est plus un bureau d'études, un super bureau d'études complètement dévoué à la personne de l'empereur. Mais en 1853, les travaux ont effectivement commencé. D'ailleurs, ils ont commencé sous Rambuteau. Préfet sous Louis-Philippe, préfet qui a disparu avec la monarchie de Juillet, enfin disparu, qui a été limogé à la suite de l'effondrement de la dynastie d'Orléans. Mais déjà en 1847 est décidée la transformation des Halles, la reconstruction des Halles, et donc tout le programme de vascularisation qui s'ensuit. C'est-à-dire, c'est bien de refaire les Halles, de les moderniser, encore faut-il pouvoir y acheminer les denrées, voilà. Ainsi d'ailleurs que les foules qui sont censées s'y déplacer. Rambuteau a pressenti déjà le bouleversement que ça va supposer. Donc, le préfet Berger, qui sera le préfet de la Deuxième République, qui est un bon père de famille, économe de ses deniers, va entreprendre ses travaux, mais un peu trop timidement, au goût de l'empereur, et au goût d'ailleurs de ses compagnons d'armes, dont le fameux Persigny, qui, très ultra, très jusqu'au boutiste, veut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. On presse Berger de le faire, et il oppose à ses forcenés la raison budgétaire en disant mais enfin non, il faut utiliser les excédents budgétaires du budget enfin de la municipalité pour accomplir les travaux, mais pas plus. Donc Berger froisse Napoléon III et ses principaux collaborateurs. En juin 1953, Persigny convoque les plus grands préfets de France, préfet du Rhône, le préfet de la Seine-Inférieure, enfin, c'est-à-dire maintenant de la Seine-Maritime, le préfet de Rouen si vous voulez, et puis le préfet de Gironde, le préfet de Nantes, et puis le préfet de Gironde, et puis voilà. Enfin bref, il convoque les cinq plus grands préfets pour savoir lequel de ces cinq-là va devenir le préfet de la Seine. Haussmann, ayant déjà fait forte impression en 52 lorsque l'empereur s'est rendu à Bordeaux, fait encore plus forte impression sur Persigny, à qui il apparaît comme une espèce de monstre brutal capable d'emporter toutes les réticences.
Peut-être dire deux mots de son physique d'ailleurs, oui, à ce moment-là.
Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'Haussmann est un colosse, un type.
Contrairement
à Napoléon III, qui lui serait plutôt un nain. Enfin, vraiment, qui est un petit homme.
Napoléon le petit.
Oui, Napoléon petit, mais le pauvre. Et, non, mais c'est un homme très petit, Napoléon III, et surtout assez mal fichu. C'est-à-dire qu'il a surtout. Il a un buste à peu près normal, mais il est très court sur
pattes.
Haussmann, lui, c'est tout le contraire. C'est une espèce de battleur qui fait pratiquement 2 mètres sous la toise, 1,93 m, je crois, ce qui est gigantesque pour l'époque. Il est un peu comme François Ier à la Renaissance, une espèce de géant parmi les rase-moquettes. Et Persigny est frappé par ce gigantisme, par ses mains qui s'agitent à toute occasion, par cette espèce de force qui se dégage d'un personnage qui ne vit que de certitude, ne connaît pas le doute, est prêt à tout, à foncer pour peu que ce soit en vue de gravir les échelons de la société. Il sent en Haussmann une espèce de force ascensionnelle. Et il se dit, voilà un homme dont on fera un serviteur dévoué pour peu qu'on lui assure honneur et prospérité.
C'est ce qui va se passer finalement.
C'est exactement ce qui va se passer. Et comme Napoléon a remarqué déjà que l'homme était quand même un fort caractère, quand Persigny lui dit, si c'est celui-là qu'il nous faut, Napoléon III ne bronche pas un instant et effectivement, fin juin, Haussmann arrive à la préfecture de la Seine.
Et se lance aussitôt.
Et se lance immédiatement dans les travaux qui ont déjà commencé. Donc le premier, Haussmann a une conception organique de la ville. Parce que, Haussmann est un type très intelligent qui se documente énormément. Il a une grande quantité une capacité d'absorption d'informations incomparable pour l'époque. Il n'est pas un visionnaire, il n'est pas un urbaniste né, il n'est pas non plus un bâtisseur, mais son intelligence va lui permettre de troquer la défroque de notables girondins pour celle de révolutionnaires parisiens, enfin révolutionnaires urbains. Hein. Et donc, en quelques semaines, Haussmann a accompli un travail documentaire absolument incroyable, absorbe complètement tous les problèmes de l'époque et les problèmes qui se posent de manière 10 fois plus cruciale à Paris que partout ailleurs. Il prend la mesure du chantier, il prend la mesure de l'enjeu. Immédiatement, cette intelligence est remarquée, et petit à petit, il va constituer autour de lui une équipe.
Une des forces d'Haussmann, c'est de savoir s'entourer.
Il va ramener de Bordeaux la plupart des collaborateurs qu'il avait appréciés, Alphand, ingénieur des ponts et chaussées, mais aussi l'horticulteur Jean-Pierre Barillet-Deschamps, à qui l'on doit tous ces jardins extravagants, ces essences exotiques qui commencent à fleurir dans tous les parcs. Et il va s'atteler à la tâche qui lui est déjà assignée, c'est-à-dire en finir avec ce qu'il appelle le premier réseau. Lui appelle ça le premier réseau parce qu'il a une conception organique de la ville. Pour lui, une ville, c'est un organe dont il s'agit d'améliorer les performances. Ce n'est pas un théâtre qui célèbre le pouvoir ou célèbre la grandeur d'une civilisation, c'est un objet technique qu'il faut sans cesse rendre plus performant. Donc il conçoit les transformations qu'on lui soumet, parce que ce n'est pas lui qui les invente, hein. Il conçoit les transformations qu'on lui soumet qu'en une série de réseaux, en une série de programmes, si vous voulez. Le premier réseau, c'est celui qui est déjà entamé, c'est-à-dire la Grande Croisée de Paris. En fait, Paris vit depuis pratiquement 2000 ans sur le schéma qu'en ont conçu les Romains. C'est-à-dire qu'il y a un cardo et un décumanus. Le cardo, c'est la voie nord-sud, celle qui emprunte la rue Saint-Martin et la rue Saint-Jacques, en passant par le gué de la Seine. Motif de la naissance d'une ville à cet endroit-là, le gué de la Seine, les îles. Et puis le décumanus, qui est grosso modo la rue de Rivoli, la rue Saint-Antoine, cette espèce de croix que forme... Donc Haussmann n'a de cesse qu'on achève le plus tôt possible ce premier programme, et ainsi s'achève sous sa préfecture un chantier déjà largement abouti, enfin commencé, qui est celui du boulevard de Sébastopol. En fait, on a déjà construit le boulevard de Strasbourg, on l'a commencé d'ailleurs sous la monarchie de Juillet, il est achevé en 1851, et en 52 on commence le boulevard de Sébastopol qui va jusqu'à la Seine. Il va lancer donc lui le boulevard Saint-Michel qui lui fait pendant après une petite inflexion hein, à cause notamment à cause des îles, à cause du palais de justice, de la Sainte-Chapelle, etc., etc. Et puis il va poursuivre la rue de Rivoli jusqu'à Saint-Antoine. Ça, ce sont les premiers travaux. Quel est le but de ces travaux? Très simple, il est de relier les Halles à de grandes voies de communication, notamment à des voies de communication qui mènent aux gares. Et aussi de dégager les abords de l'hôtel de ville, c'est très important, en cas de d'émoi populaire. Vous savez que émeute vient du verbe émouvoir. Une émeute, c'est un émoi.
Oui, mais on va en reparler d'ailleurs peut-être des émeutes. C'est un des aspects, on va dire que la politique d'Haussmann a un aspect sécuritaire. En reparler un peu plus tard.
Pas si important
mais,
que ça.
Mais passons donc au second réseau, et ce que je dirais, c'est les grands travaux, le percement littéral de Paris, qui sera beaucoup plus douloureux.
Voilà, beaucoup plus douloureux, parce que d'abord, beaucoup plus difficile à financer, parce que l'attaque du second réseau va se produire à peu près vers 1856-57, où il y a une crise financière qui vient stopper momentanément l'essor économique que le Second Empire avait promis à la France et d'ailleurs qu'il lui avait effectivement apporté.
Et en plus, concrètement, les Parisiens n'en peuvent plus des travaux.
Voilà. Alors, c'est-à-dire que le premier réseau, les Parisiens sont complètement d'accord. D'abord parce que le populo en a plus que par-dessus la tête de ne pas pouvoir se déplacer dans sa propre ville, ne serait-ce que pour aller travailler, que l'insalubrité est telle que tout le monde veut de l'eau fraîche, tout le monde veut de l'air, et tout le monde n'en peut plus de mourir du choléra pour peu que la canicule survienne. Je rappelle que les crises de choléra ont fait des dizaines de milliers de morts à Paris en 49 et en 1832. Donc jusque-là, pas de problème. Le second réseau, c'est différent. On va commencer à percer des grandes avenues qui ont pour but de préparer ce qui sera le troisième réseau, c'est-à-dire l'annexion des banlieues de Paris. Et donc on commence à percer le boulevard Malesherbes, on commence à conquérir l'ouest parisien. Et le deuxième réseau est d'autant plus mal perçu qu'il affecte des régions peu populaires et qu'en vérité, il sert plus à construire une Arcadie bourgeoise qu'à soulager les quartiers populaires de tous les maux qui les accablent.
Et surtout, alors il faut peut-être dire dans toute cette stratégie de percement, là oui, quelle est la stratégie topographique, j'ai envie de dire, d'Haussmann ? Parce qu'il est connu pour être l'éventreur de Paris.
Ouais. Haussmann, je vous l'ai dit, conçoit la ville comme un organe, comme un organisme, pas du tout comme une accumulation de chefs-d'œuvre du passé. Et en plus de ça, Haussmann est un homme qui n'a pas l'habitude d'instruire des dossiers pour les laisser mourir. Pour les laisser pourrir dans les tiroirs. Donc il se donne toujours les moyens des dossiers qu'il a longuement travaillés, les moyens d'accomplir, en tous les cas de mettre en œuvre, les plans qu'il a longuement mûris. Et l'une des choses que fait Haussmann, que n'avait fait aucun de ses prédécesseurs, il réunit une commission du plan qui va, par triangulation, relever non seulement le plan superficiel de Paris, mais aussi son plan géologique, son plan géodésique. Et donc, on va se retrouver avec une véritable carte de Paris, ses altitudes, ses couches géologiques, ses réseaux hydrauliques souterrains, les ruisseaux, les marnes, les sources de résurgence, les nappes phréatiques, tout ça va être consigné. Et enfin, on saura où on donnera un coup de pioche quand on donnera un coup de pioche. Parce que jusqu'à maintenant, se sont posés beaucoup de problèmes. On a buté contre des filons de pierre indestructibles, on a Enfin, on a buté contre des marais qui avaient été recouverts par le temps, mais qui ressurgissent dès qu'on écorche la croûte terrestre, enfin, etc., etc. Lui, Haussmann, a une idée en tête. À chaque percée, un réseau souterrain correspondant. Un réseau d'adduction d'eau et un réseau d'évacuation d'eau. Donc, il faut savoir exactement où on travaille, pour savoir si on peut créer ce réseau souterrain. C'est sa force. C'est là qu'il surclasse tout le monde. La commission Siméon avait prévu le plan des percées parisiennes. Et à peu de choses près, Haussmann va le faire en empirant l'effet de, comment dirais-je, de destruction.
Finalement, c'est là où Haussmann est finalement l'inventeur de l'urbanisme.
Voilà. Le plan Siméon prévoyait ses percées, mais ne prévoyait pas l'équipement souterrain qui donnerait à la ville sa modernité. Haussmann, lui, le prévoit. Et c'est là qu'il est vraiment supérieur en tout.
Et que dire des immeubles haussmanniens ? Parce qu'ils prévoient ça aussi.
Oui, alors, on a beaucoup glosé sur l'immeuble haussmannien. Pour ça, je vous suggère de vous reporter un très bel ouvrage paru en 91, si je ne m'abuse, un ouvrage de François Loyer, qui s'appelle « L'immeuble et la rue, Paris au XIXe siècle ». C'est un très bel ouvrage, c'est paru chez Hazan, il est continuellement réédité. François Loyer a, à mon avis, complètement bouleversé le regard qu'on peut porter sur l'architecture du XIXe siècle en écrivant ce livre. Je m'en suis d'ailleurs beaucoup nourri, moi, dans mes promenades de Parisien. Et donc, en fait, on se rend compte que l'immeuble haussmannien, grosso modo, est né avant la fin de l'Ancien Régime. Vous êtes ici, tout près de l'immeuble Montholon, au croisement de la rue de Bussy et de la rue de Seine. C'est un immeuble en étrave, avec une disparition progressive de l'entresol au profit d'un premier étage, avec un balcon filant au second, un retrait sous comble au cinquième. Un immeuble donc en étrave, avec l'amorce d'une rotonde à l'étrave. Qu'est-ce que c'est que ça, sinon un immeuble haussmannien ? C'est un immeuble proto-haussmannien. Et sous Rambuteau, effectivement, le module même, puisque nous parlons d'architecture, le module se peaufine, se perfectionne, avec toutefois l'absence de balcon filant, et l'immeuble haussmannien arrive comme une espèce d'aboutissement. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'immeuble haussmannien ? Une planéité dans les façades. C'est-à-dire pas d'avancée, pas d'encorbellement, pas de bow window, des façades planes, marquées par l'absence d'entresol. Le premier étage est un premier étage. Ce qui rappelle le langage de l'Ancien Régime, c'est qu'il y a un balcon filant qui court sur tout le second étage, qui rappelle historiquement ce que fut autrefois le piano nobile et l'étage noble. Et puis ce retrait sous comble, au cinquième, lui aussi muni d'un balcon filant, avec des toits en brisis qui partent en retrait. Pourquoi ce retrait sous comble au cinquième étage ? Pour que la lumière pénètre plus commodément jusqu'au fond de la rue et que le soleil éclaire les vitrines, les logements du rez-de-chaussée. Enfin, il n'y en a pas de logement au rez-de-chaussée, mais enfin, éclaire le plus profondément possible la trame de la ville. Vous avez là l'immeuble haussmannien. Les persiennes sont en bois au départ et il y a des persiennes. Elles disparaîtront dans la seconde partie du règne, vers 1860. On commence d'abord à les remplacer par des persiennes à battants, c'est-à-dire à volets, articulés, si vous voulez. Et puis le décor va progressivement s'alourdir. Au départ, l'immeuble haussmannien a un décor très simple. Décor qu'Haussmann préconise lui-même, car dans les actes de concession territoriale, quand les lopins sont revendus à des entrepreneurs pour qu'ils construisent des maisons, Haussmann joint à l'acte notarié, non pas exactement un règlement, mais en tous les cas des préconisations d'ordre architectural. Et c'est ce qui va donner l'unité de style de la ville.
Alors Nicolas Chaudin, je vous propose de marquer à nouveau une pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci.
1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Académie, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission Un jour dans l'histoire. Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademy.com.
Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Chaudin, auteur d'une biographie du baron Haussmann. Après avoir évoqué les travaux de Paris, nous allons peut-être plus nous intéresser à l'homme et à certains traits de caractère qui apparaissent derrière cette œuvre. Entre autres, on y faisait allusion tout à l'heure, donc l'œuvre d'Haussmann a été sévèrement critiquée. On lui reproche deux choses. La construction de ces immeubles haussmanniens vont accueillir une population bourgeoise, et donc la classe ouvrière va être reléguée aux portes de Paris. Et donc, on va dire que la volonté d'Haussmann était finalement une politique sécuritaire. Qu'en pensez-vous ?
On a beaucoup reproché à Haussmann d'avoir percé la trame du vieux Paris pour permettre aux escadrons de cavalerie de charger. Bon, d'abord, si on est cavalier, on sait que c'est un argument qui ne tient pas le choc parce que aller galoper sur des pavés, surtout s'il pleut, et vous comprendrez que le profit qu'on saurait en tirer d'un point de vue stratégique est nul, voire désastreux même. Haussmann a, comme tous ses commanditaires et tous ses contemporains, conscience que Paris est un foyer insurrectionnel et qu'il s'agit de calmer, dans l'intérêt de tous. Depuis 1789, Paris est en ébullition tous les 10-15 ans. Il n'y a pas un monarque qui ne glisse de son trône sous l'effet d'une émeute populaire. Enfin, bon, à part ce bon Louis XVIII qui a la chance de mourir sur son trône, mais c'est une véritable plaie. Une plaie qui inquiète d'ailleurs au-delà des frontières de la France. Bon, en plus de ça, le sang coule. Et on ne peut pas maintenir l'ordre dans une ville qui est sans cesse sous la menace d'une levée de barricade. Bon. Haussmann va donc adhérer plus ou moins à ce dessein stratégique. Mais ce n'est pas le motif de son œuvre. D'ailleurs, lui n'aime pas du tout cette partie de son métier qui consiste à maintenir l'ordre. Il est un partisan de l'ordre, mais il laisse le maintien de l'ordre, cette basse tâche, à d'autres mains que les siennes. Et donc, il ne convoitera jamais ses prérogatives chez le préfet de police, par exemple. On va dire qu'à deux reprises, Haussmann a probablement répondu à un impératif stratégique. La première fois, c'est quand il va couvrir le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin était ouvert jusqu'au bassin de l'Arsenal. Et Haussmann va le couvrir de manière à ce qu'effectivement les troupes puissent enjamber plus facilement le canal pour contourner le faubourg Saint-Antoine qui lui est un foyer permanent d'insurrection. Il va aussi céder aux injonctions de l'état-major lorsque on percera le boulevard Mazas, c'est-à-dire aujourd'hui le boulevard Diderot. Haussmann préconisait d'y installer une suite d'arcades, un peu comme la rue de Rivoli, en faire quelque chose de très beau, de très sophistiqué d'un point de vue architectural, pour une fois. Eh bien non, il ne le fera pas sous l'injonction des militaires qui voient dans ces arcades autant de refuges à des francs-tireurs. Voilà. Donc, c'est les deux seuls éléments qui, effectivement, laissent penser qu'Haussmann a cédé à cet impératif stratégique. Et ce que je voudrais dire pour finir, pour clore le sujet, c'est que c'est tellement faux de brandir cet argument que lorsque la Commune va embraser Paris, il faudra 8 jours aux Versaillais pour conquérir Paris. Ce qui prouve bien que les avenues, les boulevards, les billards pour artilleurs qu'on avait reprochés à Haussmann se sont montrés d'une parfaite inutilité stratégique. Et puis vous savez, on peut construire aussi une barricade d'un bout à l'autre d'un boulevard.
Autre grande critique souvent accolée à Haussmann, c'est donc le saccage haussmannien, la disparition de vieux monuments parisiens.
Tout à fait. On a beaucoup reproché à Haussmann d'avoir détruit l'âme du vieux Paris, d'avoir saccagé de superbes monuments. C'est le cas, en tous les cas, de 2 ou 3 d'entre eux. On va en citer quelques-uns. On peut citer par exemple l'hôpital des Enfants Trouvés, qui est un chef-d'œuvre de Beaufranc construit à côté de l'ancien Hôtel Dieu, qui longeait l'île de la Cité côté rive gauche, longeait l'île de la Cité et Notre-Dame de Paris. Cet hôpital avait été reconstruit en 1772 à la suite d'un incendie, donc c'était un hôpital qui n'était pas complètement vétuste, mais c'est un hôpital qui, pour avoir été construit sous Louis XV, n'apparaissait pas aux hommes du Second Empire comme un chef-d'œuvre à protéger coûte que coûte. Imaginez aujourd'hui que l'on détruise un immeuble de la fin des années 30 ou du début des années 40. Voilà. Quant à l'hôpital des Enfants Trouvés de Beaufranc, qui était à côté, lui, c'était un véritable chef-d'œuvre. Seulement, si on détruisait l'Hôtel Dieu, l'hôpital des Enfants Trouvés se situait exactement en face du parvis de Notre-Dame. Et à l'époque, même les grands défenseurs du patrimoine trouvaient qu'il était complètement idiot de laisser subsister une verrue aussi belle et aussi noble soit-elle devant un monument aussi vénérable pour le coup que Notre-Dame de Paris. Vous savez, le sentiment patrimonial, en 1850, il est le fait essentiellement de quelques poètes, de quelques savants. Certes, Guizot a créé la commission des monuments historiques, qui a présidé d'abord Ludovic Vitet, puis Prosper Mérimée, qui la préside au moment même où Haussmann œuvre. Mais c'est encore une conception très intellectuelle du patrimoine et elle s'attache aux monuments majeurs de notre civilisation susceptibles de cimenter la nation française. Vous pensez bien que le patrimoine qu'on appelle aujourd'hui d'accompagnement, c'est-à-dire les vieux quartiers, le patrimoine industriel, le patrimoine hospitalier, tout ça n'entre pas encore en ligne de compte. Et il est vrai qu'Haussmann, alors que Napoléon III avait préconisé à la commission Siméon de tenir compte des monuments du passé, qu'il avait même dit, enjoint à la commission Siméon de créer des courbes ou d'infléchir le tracé des avenues si celui-ci, par malheur, rencontrait un monument historique, bon, Haussmann ne l'a pas fait. Il a ainsi, en prolongeant la rue des Écoles, détruit la tour de la commanderie de Saint-Jean-de-Latran. Bon, une tour médiévale comparable à celle de Jean sans Peur, par exemple. Bon, il l'a détruite, c'est très dommage. Il l'a détruite plus par du fait de la légèreté de Mérimée, qui est parti voyager, mondaniser en Autriche plutôt que de siéger à la commission des monuments historiques au moment où le problème se posait. Mais bon, à part ça, on ne peut pas non plus dire qu'Haussmann a saccagé des monuments parisiens.
D'ailleurs, vous avez rappelé, je crois, que les destructions qui ont eu lieu par la suite sont bien pires que celles d'Haussmann.
Mais sont bien pires. On a détruit entre 1870 et 1940, en 1970, entre eux. Entre 70 et 70, en un siècle, on a détruit 20 fois plus de monuments et des plus insignes que ce que Haussmann a détruit. Haussmann a démoli des hôtels particuliers, Haussmann a détruit des immeubles de rapport Louis XV absolument superbes et dont on regrette aujourd'hui la disparition. Il a démoli des ensembles urbains, il a démoli évidemment beaucoup de taudis médiévaux vétustes qu'on aurait aimé avoir aujourd'hui, de pouvoir contempler aujourd'hui. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Haussmann n'a pas rencontré une résistance organisée au grand mouvement d'assainissement et de destruction qu'il a lancé. Voilà.
On va clôturer sur ce sujet et on va revenir plus sur l'homme et sa sensibilité. Il y a une chose qui est très étonnante qu'on découvre en vous lisant, c'est le manque de sensibilité artistique de cet homme qui remodela complètement Paris. Et nous sommes au micro de Canal Academy et donc il faut aussi qu'on mentionne quand même qu'il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts.
Il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, pour la réédition très augmentée de mon essai sur Haussmann, j'ai donc été consulté des lettres d'Haussmann qui sont conservées aux archives de l'Académie des Beaux-Arts. Lettres d'ailleurs que personne ne s'était soucié d'aller consulter. Je signale, ça fait quand même 150 ans qu'on écrit sur Haussmann. Bon, cela dit, Haussmann était véritablement une âme fruste. C'est-à-dire, il a beau avoir reçu quelques humanités, il est ignorant en matière artistique au point que c'en est inquiétant quand on sait qu'il est le grand maître de la ville. Il poursuit les travaux à l'hôtel de ville qui avait été amorcé par Rambuteau. Rambuteau a fait de l'hôtel de ville un palais absolument magnifique. Et Rambuteau, lui, homme de goût, aristocrate extrêmement cultivé, policé, avait fait appel à ce que l'Académie des Beaux-Arts comptait de meilleur à l'époque et aux meilleurs artistes de l'époque Louis-Philippe Arne, c'est-à-dire Ingres, Chassériau, tout le monde. Enfin, vraiment, c'est formidable. Haussmann, lui, quand il va parachever le décor et la construction de l'hôtel de ville, va demander à des gens comme Henri Lehmann, Yvon...
Même les portraits, d'ailleurs, que vous exposez de lui.
Exactement, de mauvais peintres. Oh, Lehmann est à sauver, mais enfin, bon, c'est pas non plus un grand génie. Delacroix, qui siège au conseil municipal de Paris, est très peu sollicité. Il a surtout été sollicité au début de sa carrière par l'équipe de Rambuteau. Voilà. Pour ce qui est de ses considérations en architecture, elle repose exactement sur la même ignorance. Il envoie balader les architectes réputés les plus savants, comme Itorf, par exemple, et s'entoure d'une bonne cohorte de faiseurs anonymes dont certains sont restés célèbres, comme Baltard, par exemple, parce qu'il a construit les Halles. D'ailleurs, il a construit les Halles après qu'on lui a demandé de réviser sa copie de manière assez rocambolesque, du reste, puisqu'il n'avait construit finalement que des casemates éclectiques sans trop d'intérêt esthétique. Et à part Baltard, les collaborateurs d'Haussmann, les architectes voyés, sont vraiment de très, très médiocres faiseurs. Et c'est probablement Haussmann qui porte une part de responsabilité dans la lenteur avec laquelle l'architecture va se renouveler en France au XIXe siècle. Normalement, avec le chantier haussmannien, la France aurait dû être le grand laboratoire de l'architecture de la fin du XIXe siècle et dès 1880 aurait dû générer les formes nouvelles, celles qui vont accoucher de l'art nouveau à la fin de la décennie 90, par exemple. Non. Haussmann, lui, va s'en remettre ou aux accessites du concours du concours de Rome. Et du coup, l'architecture française va s'enferrer dans une espèce d'éclectisme besogneux et très bourgeois. Et les quelques génies que compte la France en architecture à l'époque, à commencer par Viollet-le-Duc, qui est plus un révolutionnaire qu'un architecte des monuments historiques, ben, des types comme Viollet-le-Duc auront beaucoup de mal à imposer leur vue parce que justement, il y aura une espèce de résistance de facto par le simple fait que la préfecture de Paris, depuis Haussmann, mais jusqu'à ses successeurs, va utiliser, je vous dis, des accessites du prix de Rome.
Alors, le baron Haussmann va rester 16 ans à la préfecture de la Seine.
16 ans et demi.
Il y a deux choses qui semblent étonnantes sur ces 16 ans de préfecture. C'est le fait qu'il soit resté préfet de la Seine et qu'il n'ait pas été nommé ministre. Ce qui fait apparaître un trait de caractère très particulier.
On peut en dire deux mots, c'est-à-dire que Haussmann a obtenu beaucoup de faveurs de l'Empire. Il a été nommé sénateur et puis il reçoit tous les souverains qui viennent à Paris admirer le chantier haussmannien. Haussmann les reçoit à l'hôtel de ville comme s'il était un prince lui-même. En 1859, Haussmann est à son apogée comme l'Empire du reste. On va annexer les banlieues, c'est-à-dire tout ce qui est compris entre l'ancienne enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers, les fortifs qui dessinent aujourd'hui la véritable limite administrative de Paris. Et cette annexion est le lieu pour Haussmann de réclamer un surcroît de prérogatives. Alors il va ourdir une espèce de petite machination assez médiocre dont il a le secret pour se faire nommer ministre en 1860. Alors, il va, à la faveur d'un changement ministériel qui ramène Persigny, qu'il connaît bien, qui est un autoritariste comme lui, qui ramène Persigny aux affaires, au ministère de l'Intérieur, il va essayer de convaincre Persigny de le promouvoir ministre de Paris dans le gouvernement. En fait, Napoléon III veut bien faire d'Haussmann un ministre, mais Napoléon III et son entourage envisagent de faire d'Haussmann un ministre des travaux publics, mais pas du tout un ministre de Paris. Haussmann, lui, veut être ministre de Paris parce qu'il, d'abord, il veut s'approprier son chantier, il veut lui attacher son nom pour l'éternité. Et en plus, comme il l'explique assez fiévreusement à Napoléon III, si jamais on nommait Haussmann ministre d'autre chose que de ministre de Paris, le bon peuple croirait qu'on l'a démis de ses fonctions. En fait, le projet avortera parce qu'Haussmann se montre extrêmement maladroit. Il va jusqu'à rédiger lui-même le décret de nomination et le soumettre à la signature de l'empereur qui va apprécier ça, évidemment, très modérément. Et finalement, Haussmann obtient une demi-victoire dans la mesure où il assistera au Conseil des ministres. En étant que préfet de la Seine, il aura la possibilité d'assister au Conseil des ministres, privilège que seul partage avec lui l'impératrice. C'est vous dire
la place de choix
qui lui est réservée. Mais il ne sera jamais ministre.
Place de choix qui lui est réservée. Il y a une autre chose qui est très étonnante au long de toute sa préfecture de la Seine, c'est qu'il a exproprié, construit. On imagine quelque part qu'il s'en est mis plein les poches au passage. Et alors, nous n'avons pas le temps d'évoquer les dernières années de la vie du baron Haussmann, puisqu'il quitte la préfecture de la Seine en 1869, mais il meurt en 1891. Et cette fin de vie, finalement, est loin d'être luxueuse. Et on voit bien qu'Haussmann ne s'est pas enrichi.
Haussmann ne s'est pas du tout enrichi. Il était trop arrogant, trop fier, trop fier pour croquer, si vous me passez cette expression. En plus de ça, il tient sa bonne étoile des mains même de l'empereur. Et l'empereur, lui, est un homme honnête. C'est son entourage qui est un petit peu véreux. Enfin, certains membres de son entourage, à commencer par son demi-frère, Morny. Pour le reste, il est quand même un très grand homme d'État et un personnage assez flamboyant, mais véreux. Bon. Haussmann, sachant qu'il tient de Napoléon III l'extraordinaire destinée qu'il connaît, n'a pas envie de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son maître. En plus de ça, c'est un protestant assez sobre dans ses envies, dans ses désirs. N'étant pas très cultivé, il ne nourrit pas le désir de construire un palais magnifique qui accueillerait une collection de grands potentats qui serait meublé par tout ce qu'il y a de plus formidable et de plus moderne. Non, Haussmann n'est pas collectionneur. Haussmann n'a pas besoin de vivre dans un palais. En plus de ça, l'Empire lui prête ce palais. Il vit à l'hôtel de ville, en plus bénéficie au château de Madrid d'une villégiature aux limites de Paris qui lui convient tout à fait. Que fait Haussmann ? Il se fait construire un petit château à la limite de Bordeaux par Baltard, qui est une grosse maison de maître, meublée très modestement, avec du mobilier ordinaire tel que le Second Empire a pu en produire en série. Non, Haussmann n'est pas un croqueur. En revanche, il aura probablement couvert de toute son autorité des malversations dont il voudra ignorer l'existence, mais qui, malheureusement, elles, sont avérées. Mais nul ne peut affirmer qu'Haussmann a croqué, qu'il s'est corrompu. C'est pas vrai, cet homme est sorti fièrement de la mission qui lui était assignée.
Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie, Nicolas Chaudin. Pour conclure, je dirais que finalement, comme vous nous l'avez montré, Haussmann n'était pas forcément un visionnaire, mais il voyait clair.
Voilà.
Donc je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Haussmann, Georges Gène, préfet baron de la Seine, paru chez Actes Sud. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir à tous et à tous. Et restez bien à l'écoute de Canal Académie.